Des aveux et un corps. Les deux pièces manquantes de l'affaire Jubilard sont en train de s'assembler. Près de 5 ans après la disparition de Delphine Jubilard, son mari Cédric est finalement passé aux aveux devant une juge avant de donner la localisation du corps et des ossements ont bel et bien été découverts. Est-ce le corps de Delphine Jubilard ? Le doute est léger. Il doit tout de même encore être levé avant de passer à l'étude de ces ossements. Dans la deuxième partie de cet épisode, je reçois un médecin légiste, le professeur Olivier Jardet. Je l'interroge, à quoi ressemblent ces ossements après des années passées en pleine nature? Comment les faire parler et pour dire quoi? Leur étude peut-elle confirmer les déclarations de Cédric Jubilard? Ou au contraire, le faire mentir? Je suis Zachary Legros, vous écoutez Le Titre à la Une, le podcast d'actualité de BFM. Bienvenue.
On est très exactement, Roselyne, très bonne question, à 13 minutes du domicile des Jubilard et 10 km de route si on prend les petits chemins, les petites départementales. Pour quelqu'un qui connaît très bien la région, et c'est le cas de Cédric Jubilard, 13 minutes chrono ici entre son domicile et ce chemin.
Jean-Wilfried Forquès, envoyé spécial de BFM TV.
C'est dans ce chemin que le corps a été retrouvé ce matin. Nous sommes sur la commune de Villeneuve-sur-Vert. C'est sur cette petite commune que les gendarmes sont arrivés ce matin. Dans un premier temps, ils ont bouclé complètement les accès à cette scène. Ils ont bouclé les accès avec des gendarmes mobiles qui sont postés de part et d'autre de ce chemin. Il y a ensuite les hommes de l'IRCGM, de la police scientifique qui sont arrivés sur place. Puis, dans un second temps, les hommes de la section de recherche, les gendarmes de Toulouse. Puis, les magistrats qui ont accompagné Cédric Jubilard qui est venu lui-même, comme il l'avait promis hier aux magistrats à Toulouse.
Cédric Jubilard est présent aux côtés des enquêteurs ce jeudi 16 juillet au matin, pendant les recherches du corps de son épouse, Delphine Jubilard, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. La veille, lors d'un interrogatoire, il avait assuré pouvoir orienter les enquêteurs pour localiser son corps.
Ce sont au total plus de 100 gendarmes qui sont mobilisés sur les lieux des fouilles.
Boris Karlamov, journaliste police-justice à BFM TV.
Il y a un escadron de gendarmes mobiles, le groupement de gendarmerie de ce département du Tarn, la section de recherche de Toulouse qui est en charge des investigations depuis le départ, mais également 5 équipes cynophiles et une équipe de lutte anti-drone pour, on l'imagine, sécuriser l'endroit. Donc plus de 100 gendarmes qui sont mobilisés depuis ce matin dans ce petit département du Tarn.
Un tel dispositif organisé en moins de 24 heures, c'est rarissime. François Daoust, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, l'IRCGN, explique la façon dont les recherches se passent.
Alors, la seule personne qui peut lui poser des questions, c'est le juge d'instruction assisté de son greffier. Ça, c'est la loi. Même un juge d'instruction qui serait présent sans son greffier, c'est une cause de nullité. Donc, on voit que c'est très encadré. Il doit y avoir, et ça j'en suis persuadé, son conseil sur place qui va assister. Et c'est le juge d'instruction qui peut seul dialoguer avec Cédric Jubilard pour lui demander « Mais est-ce que, comment vous avez fait ? Est-ce que vous aviez déjà repéré ces lieux ? Est-ce que vous avez rajouté des éléments, le transport ?» Il n'y a que le juge d'instruction qui peut lui poser des questions.
Et très rapidement, dès 10h du matin en fait, des ossements sont découverts, dans un lieu qui n'avait encore jamais été fouillé. Les ossements sont retrouvés enfouis, toutefois attention, il s'agit d'une zone terreuse, avec assez peu de passages. Il se peut donc qu'ils n'aient pas été délibérément enterrés, ils ont aussi pu être déposés là, puis recouverts par l'érosion et la météo. Les ossements doivent ensuite être envoyés à l'IRCGN, à Pontoise, pour effectuer des analyses, notamment sur l'ADN, pour certifier qu'il s'agit des ossements de Delphine Jubilard. Les analyses en laboratoire, je vais en parler en détail avec mon invité qui est médecin légiste, mais sur place aussi, la fouille du lieu de découverte est également importante.
Eh bien, si on a un chemin initialement d'accès pratiquement difficile, mais qui fait qu'on l'a pratiqué pour pouvoir amener un corps, si on a creusé tout autour, voire encore plus profond, pour être sûr que le corps aille loin, qu'on ait amené des matériaux pour recouvrir le corps, matériaux qui proviennent d'ailleurs et qui avaient été déposé bien avant. On a tous les éléments qui montrent que cet aménagement avant le décès de Delphine Jubillar était une préparation du crime. Et finalement, nous ne sommes plus dans un acte involontaire, mais bien dans un acte volontaire. Et non seulement ce n'est pas un meurtre, mais c'est un assassinat, parce que nous avons une préméditation. Donc il est tout aussi important de travailler sur cette topologie et topographie des lieux, de façon à voir est-ce qu'il y a des éléments de la préparation, ou c'est un lieu trouvé au hasard dans lequel je dépose le corps.
Si ces fouilles ont lieu, c'est parce que 10 jours plus tôt, Cédric Jubillar a finalement reconnu avoir tué son épouse, Delphine. Je vous l'avais raconté ici. Lui, qui avait toujours nié avant d'être condamné à 30 ans de réclusion criminelle en octobre dernier, c'est dans une lettre à son avocat qu'il a fini par reconnaître son implication dans la mort de Delphine Jubillar.
Quand il a réalisé ce qu'il avait fait, il a tout de suite pensé à ses enfants.
Maître Pierre de Buisson.
Il s'est dit, il ne faut pas qu'il ne voit ça, donc je dois déplacer le corps. Il a pensé aussi, parce qu'il s'agit d'un être humain, mes enfants m'en voudront, ils ne me le pardonneront pas. Et donc, très rapidement, pour ne pas dire immédiatement, il a pris la décision de déplacer le corps de Delphine avec le véhicule. Et en ce qui nous concerne, nous espérons que tout sera fait avec l'aide de Cédric Jubillar pour retrouver le corps de Delphine. Il n'y a rien de plus important aujourd'hui.
Et ce mercredi 15 juillet, Cédric Jubillar confirme ses aveux dans le bureau du juge. Il avoue être à l'origine de la mort de Delphine Nossaguel, le nom de jeune fille de sa femme.
Les déclarations qu'il a pu faire à ses avocats n'avaient, on le sait, aucune valeur juridique. La question était de savoir s'il allait confirmer, renouveler ses aveux, mais cette fois-ci face à la justice, pour que tout cela soit consigné. Ça a été chose faite et c'est la présidente de la cour d'appel de Toulouse elle-même, en personne, qui a auditionné Cédric Jubillar.
Le mois précédent encore, Cédric Jubillar continuait de dissimuler ce lieu face à l'avocate de ses enfants, maître Malika Chouani. C'était au cours d'une audience au sujet du placement de son fils et de sa fille chez leur oncle et leur tante. L'avocate décide de porter la parole du fils, Louis, âgé de 11 ans.
Je lui ai redemandé il y a un mois de manière officielle devant un juge des enfants. Je lui ai tendu la perche, il n'y a pas répondu. Je lui ai demandé, je lui ai dit. C'était la demande encore de Louis le mois dernier. Je lui ai dit, Louis, il attend le corps de sa mère. Il ne m'a pas répondu à ce moment-là.
Aujourd'hui, elle se dit soulagée.
Oui, enfin, un soulagement parce que c'est plus de 5 ans qu'on réclame ce corps pour que les enfants puissent faire un deuil. Enfin, ça s'est bousculé. Vraiment, je remercie les magistrats qui ont été très réactifs depuis la déclaration par voie de presse de Cédric Jubillar. Une justice qui est allée vite, c'est important, c'est le début d'autre chose, je crois.
L'oncle de Delphine Jubillar, lui, attend encore les résultats définitifs des analyses.
Pour l'instant, c'est pas un soulagement. On n'avait aucun doute sur le décès de Delphine. Ça savait très bien qu'il avait tué. Ce qu'il faudra, c'est que voilà, quand on aura la confirmation, qu'on puisse faire la sépulture. Et
vous attendez le procès en appel, je suppose, maintenant?
Ah, bien sûr.
Qu'est-ce que vous en espérez?
Qu'il prenne perpète, hein, et qu'il soit jugé pour meurtre. Hein. Tout le temps, on pense aux enfants et aux petits-enfants. Enfin, les enfants de Delphine et mes neveux et nièces. Hein. Qu'est-ce que je peux leur dire? Qu'ils reverront plus leur maman. Leur père, c'est un assassin.
Ce procès devait se tenir en septembre, mais depuis les révélations de Cédric Jubillar, ses avocats et les différentes parties du dossier demandent à ce que ce procès soit repoussé pour pouvoir relancer l'enquête. Bonjour Olivier Jardet.
Bonjour.
Professeur Jardet, vous êtes médecin légiste, expert agréé par la Cour de cassation. Les ossements dont on parle, s'ils sont bien ceux de Delphine Jubillar, ça doit encore être formellement confirmé, ils ont alors été dissimulés pendant 6 ans, à quoi peuvent-ils ressembler aujourd'hui?
D'abord, tout ce qu'on va retrouver est excessivement fragile. Et donc, il faut regarder la position des os, il va falloir prélever la terre autour, il va falloir prélever les éventuels cadavres de verre. Il faut regarder si autour de ces ossements, il y a des habits, parce que est-ce qu'elle a été dénudée ou pas? Est-ce qu'il y a des bijoux? Est-ce qu'il y a des documents? Et donc, il y a une phase d'observation absolument majeure, parce que tout ça est excessivement labile, va disparaître en très très peu de temps. Et une fois que ça a disparu, vous n'avez plus aucune possibilité de revenir en arrière. Donc l'observation, des photographies, des prélèvements dans l'environnement.
Mais ces os qui ont donc été dissimulés, conservés pendant plusieurs années, sont très fragiles, mais peuvent tout de même être transportés dans des laboratoires pour être ensuite analysés.
Est-ce qu'il s'agit de Delphine ou pas? Et là, on a plusieurs éléments, c'est les dents. On a tous fait des plombages et donc c'est spécifique. On a bien entendu, même si on est à 6 ans, je dis bien même si on est à 6 ans, à l'intérieur d'un fémur, vous avez encore des traces d'ADN et l'ADN peut parler. Et puis, il y a tout ce qui est l'acte d'ostéosynthèse, éventuellement un stérilet qui est resté. Vous voyez, il y a des éléments qui sont importants.
Combien de temps peut prendre ce processus d'identification? Au bout de combien de temps on peut savoir s'il s'agit oui ou non des os de Delphine Jubilard?
Mais ça va assez vite, hein, je vais vous dire.
De l'ordre de quelques heures, quelques jours?
Non, pas quelques heures, plusieurs jours. Plusieurs jours. Parce que on a forcément un ADN qui est dégradé. Donc il y a une recomposition de la trace ADN qui est tout à fait faisable. Mais on ne va pas avoir un ADN impeccable qui sortit comme ça du réfrigérateur, quoi, si vous voulez. Donc il y a une recomposition qui prend quelques jours.
La première étape, c'est donc de lever le doute sur l'identité de Delphine Jubilard à travers ses ossements. Et puis, il faudra essayer de comprendre comment est-ce qu'elle est morte. Qu'est-ce qu'on peut déduire à partir d'ossements sur la façon dont quelqu'un est mort?
Je vais vous dire franchement, avec des ossements, les ossements parlent énormément. Contrairement à ce qu'on peut penser. On va voir si elle a une fracture du crâne, par exemple. On va voir si elle a des traces de poignard, de couteau, parce que ça donne des traces sur les os. Est-ce qu'elle a une fracture je ne sais pas, si quand on assassine quelqu'un, bon, il ne se laisse pas faire. Donc, il y a parfois des lésions osseuses. Il y a aussi quelque chose qui est important, c'est l'analyse des cheveux. Parce que sur les cheveux, il y a des traces de toxiques. Est-ce qu'elle a été droguée avant? Est-ce qu'elle avait... Cédric était quelqu'un qui consommait beaucoup de toxiques. Est-ce qu'elle, elle en consommait également? Donc, vous voyez, il y a plusieurs éléments. D'abord, l'identification de la personne, l'âge, le sexe, pour que tout ça soit concordant. Éventuellement, apprécier la façon dont elle a été assassinée. Et... l'éventuelle prise de toxiques.
Sur les hypothèses de la façon dont elle a été assassinée, dont elle a été tuée, dont elle est morte, il y a la défense de Cédric Jubilard qui consiste à dire qu'il s'agit d'une dispute comme il y en a eu par le passé qui cette fois a dégénéré. On peut prendre l'hypothèse d'une strangulation. Est-ce qu'on peut savoir si une personne a été étranglée à partir de ses ossements?
Oui, tout à fait. L'osioïde est un os qui se conserve. Et sa fracture signerait une strangulation, effectivement. C'est un os qui est situé à la racine du cou et qui montre bien d'éventuelles lésions. Et s'il est fracturé, c'est qu'il y a eu un traumatisme violent, donc une strangulation.
Vous avez parlé tout à l'heure aussi des traces qu'il peut y avoir sur un crâne. L'hypothèse d'une chute, elle peut être vérifiée avec des os?
Alors, effectivement, si vous avez une fracture du crâne, c'est quand même c'est vraiment un coup volontaire. Les traces de couteau se retrouvent sur les os. Vous avez parfois des entailles au niveau, par exemple, des vertèbres du cou qui signent un coup de couteau ou au niveau du thorax sur les côtes. Et donc ça, ce sont des éléments d'identification et de cause de la mort.
Toutes ces recherches-là sur les os dont on parle, ça se fait à l'œil nu, avec un microscope, avec l'aide de l'imagerie, de scanners. Quels sont les outils pour travailler autour de cela?
Alors, le scanner est très important. L'œil, moi je suis très... déjà, l'examen clinique personnel, quoi, si vous voulez, ça me paraît quelque chose d'important. Puis après, il faut être aidé. J'oserais orienter plus vers le scanner que l'IRM. L'IRM voit très bien les tissus. Là, on ne doit plus avoir beaucoup de tissus, même s'il y en a, il en reste peut-être, hein, c'est possible. Mais le scanner est très précis pour les lésions osseuses.
Est-ce qu'on peut connaître le moment de la mort à travers les ossements?
Alors, la date de la mort est compliquée au niveau des ossements. Elle peut, et c'est pour ça que tout à l'heure je vous en ai parlé, plus sur les cadavres qui entourent les cadavres de vers, par exemple, ou de mouches, parce qu'il y a une destruction qui est faite aussi par des insectes, peuvent nous donner des indications. On ne va pas vous dire si c'est à 12h24, 30 secondes, hein, ça peut vous donner une certaine antériorité. Néanmoins, il faut voir quelle a été, où est-ce qu'elle a été enterrée. Il y a les problèmes d'hydrométrie. Il y a vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent rentrer en ligne de compte et qui peuvent modifier de façon importante la datation de la mort.
Donc, difficile de dater le moment de la mort avec les ossements seuls. Qu'est-ce que l'on ne peut pas savoir, en fait, avec des ossements par rapport à l'étude d'un corps qui vient d'être trouvé? Il y a beaucoup de questions, il faut s'attendre à des questions sans réponse.
Ah bah, si vous voulez, quand on voit un corps, je dirais, qui vient d'être assassiné, Vous avez toutes les effractions cutanées, tous les hématomes, toutes les lésions musculaires. Vous avez quand même beaucoup de choses. Vous avez le bol alimentaire, vous avez des éléments qui sont majeurs dans l'examen de la cervelle, était quelque chose d'important aussi, si vous voulez. Vous avez beaucoup, beaucoup plus d'éléments, c'est sûr. Néanmoins, il faut savoir que rien qu'avec des ossements, on a aussi des indications, contrairement à ce que les gens peuvent penser.
Aujourd'hui, Cédric Jubilard, il a un axe de défense que l'on a entendu notamment par la bouche de ses avocats. Ils ne veulent pas parler de meurtre, mais évoquent plutôt une mort sans intention de la donner, avec l'idée d'une dispute qui aurait dégénéré, et cette expression discutable de crime passionnel. Qu'est-ce qui peut confirmer ou infirmer cette défense à travers une autopsie ?
S'il n'y a pas de vraie étape fracture. Parce que s'il y a une fracture, il y a quand même un traumatisme violent. Fracture du crâne, on pense surtout à ça. Mais même fracture du tibia, au niveau de la jambe, au niveau des bras. En revanche, si effectivement il n'a qu'une fracture de l'osioïde dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à la racine du cou, qui montre qu'il l'a pris à la gorge et puis il a trop serré, ça peut être un élément. Mais c'est quand même des choses où les gens se débattent énormément. Même pour étouffer, je veux dire, vous étouffez pas quelqu'un comme ça. Il y a un instinct de survie et de force qui se décuple à ce moment-là, qui est de toute façon très importante. Donc oui, peut-être, mais les examens vont le montrer. Si effectivement il n'y a que l'osioïde de fracturé, ça peut, je dis bien ça peut, avec plein de petits points de suspension, et éventuellement être expliqué comme ça. Mais si on retrouve d'autres lésions concomitantes, ça va être quand même difficile à expliquer.
Merci beaucoup, professeur Olivier Jardet, pour vos lumières. Merci d'avoir répondu au titre à la une.
Merci.
Merci à Jean-Baptiste Perra pour la réalisation de ce podcast, à Naël Aubeuf qui m'a aidé à le préparer, et merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. S'il vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous laisser une note ou un commentaire. Rendez-vous tous les jours sur les plateformes d'écoute, sur notre site internet bfmtv.com et sur notre application. À demain.